Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième heure du Mac de l'Immo. Vous êtes sur Radio Immo comme chaque vendredi, on est ensemble. Bonjour Sylvain Lévy-Valency.
Comment ça va Bérénice?
Ça va et vous?
Vous êtes superbe.
Ah oh, merci, vous aussi.
Voilà, vous êtes un rayon de soleil sous une chaleur écrasante, hein, n'est-ce pas?
C'est vrai qu'il fait très chaud. Et notre invitée aussi est rayonnante, il s'agit de Marianne de Battisti, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour Sylvain.
Bonjour Marianne, on est très heureux de recevoir une grande âme de l'immobilier.
Et oui, c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir une femme avec une carrière impressionnante. Justement, nous allons en parler, on va parler de votre parcours, on va parler aussi de votre métier, puisque vous êtes coach et conseil M2B Coach, hein, c'est votre entreprise. Voilà, on va parler de votre vie, de votre parcours, on va découvrir vos aspirations, on va écouter aussi des témoignages, celui de vos proches, et puis on va écouter votre programmation musicale, puisque c'est vous qui êtes aux commandes. On a écouté là la première musique, il s'agit de la flûte enchantée. Pourquoi ce choix avec le duo Pamina et Papageno?
Alors on commence en douceur avec ce duo qui est tellement mélodique et tellement beau. D'abord cet extrait de La Flûte Enchantée qui est probablement mon opéra préféré, que j'ai écouté très très souvent. Peut-être que le souvenir le plus fort que je garde de cet opéra, c'était à Aix-en-Provence, dans le palais de l'archevêché, sous le ciel étoilé, avec Nathalie Dessay qui était la reine de la nuit et qui était enceinte de 8 mois et qui a néanmoins placé son contrefa de manière absolument admirable. En l'occurrence, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Pamina et Papageno qui viennent d'être emprisonnés et qui font ce duo merveilleux qui est presque un duo d'amour, alors qu'en fait, c'est pas leur histoire d'amour à eux. Mais c'est une mélodie que j'aime énormément. J'ai une très très bonne amie qui est cantatrice et qui la chante merveilleusement avec son mari. Donc voilà, pour moi, ça a beaucoup de sens.
Vous allez souvent à l'opéra ?
Oui, j'y vais souvent. Et j'irai, je pense, de plus en plus souvent, parce que maintenant j'ai un peu plus de temps. C'est un grand plaisir.
Et le hasard, nous sommes au 124 rue Réaumur, à l'angle de la rue du Sentier, et vers le milieu de la rue du Sentier, j'ai pas le numéro en tête, avait vécu pendant plus d'un an Wolfgang Amadeus Mozart, à 100 mètres d'ici.
Ah bon?
Oui, absolument. Et il y a encore une plaque commémorative qui marque son passage. Il est venu à Paris et il y a vécu à peu près une bonne année.
Dans l'immeuble qui est encore...
Rue du Sentier, avec la plaque commémorative, absolument.
Et l'immeuble est toujours debout?
Il est toujours debout. Alors bien sûr, sur la rue du Sentier, ils sont beaucoup montés, puisque effectivement, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'un peu comme l'hôtel de Bourrienne, qui est rue d'Audeville, la cour a été conservée en état.
Baptiste me dit que c'est 8 rue du Sentier.
Voilà, c'est 8 rue du Sentier. Bravo!
Me dit dans l'oreillette.
Bravo, aux 8 rue du Sentier. Voilà, on a un Baptiste.
L'immobilier, quand même, est
incroyable. Ça marque.
D'ailleurs, on va dire à Baptiste, il est resté combien de temps, Mozart, à cette adresse?
Alors, je ne sais pas si Baptiste
je suis sûr qu'il va nous retrouver ça. En fait, Mozart, qui est mort à 34 ans, comme on le sait, avait beaucoup voyagé en Europe et surtout, il avait déjà fait un grand tour d'Europe avec son père, Léopold.
Ah bah oui. Et je sais que son père était exigeant.
Et c'est vrai, on a cette image, Léopold Mozart, qui était un type extraordinaire quand même, hein, un type formidable, qui était compositeur, hein, et qui était un grand amateur de musique, avait son fils, il avait 5-6 ans, partout en Europe, parce que c'était un prodige. Et il a même jouer sur à l'époque c'était du clavecin, sur les genoux de Louis XV, voilà.
Absolument. Et son père lui disait: le travail n'est rien sans le talent, mais le talent n'est rien sans le travail.
Ouais, oui.
C'est comme son père qui lui faisait jouer des morceaux entiers avec les yeux bandés alors qu'il avait 4 ans.
Ouais, c'est incroyable.
C'est une âme extraordinaire. Et puis La Flûte Enchantée, c'est un opéra, mais qui a une symbolique particulière, bien évidemment, il évoque toute la symbolique autour de la franc-maçonnerie, par exemple, puisque on sait que Mozart était franc-maçon, et donc tous les codes symboliques à l'époque où a été écrit La Flûte Enchantée, on pratiquait un rite qui s'appelait le rite écossais, ancien et accepté, qui était adapté en Autriche, et tous les codes de La Flûte Enchantée, sont le reflet, en fait, des tenues maçonniques qui sont faites, etc., avec une symbolique. Alors les maçons s'en réjouissent en disant « c'est certainement le maçon le plus célèbre », etc., mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, beaucoup de symboliques. Et dans le duo, dans justement le duo Papageno et Palomina, c'est quelque chose qui, en fait, reflète aussi les lumières du temple, etc. Voilà, c'est très beau. L'adaptation qui avait été faite, d'ailleurs, était aussi très, très belle.
Voilà, alors on va passer de l'opéra à l'immobilier. On va revoir votre parcours. Alors, on va recommencer au début. Après le bac, vous avez hésité entre deux choses, on va dire.
Après le bac, j'avais surtout en tête de quitter le milieu familial et de prendre mon indépendance. Donc, j'avais négocié avec mes parents.
C'est assez tôt, quand même.
Enfin,
c'est...
J'avais 17 ans.
Oui, c'est relativement jeune.
Ouais. Et donc, j'avais négocié avec mes parents... d'aller faire Sciences Po à Paris si j'avais une mention au bac. Parce qu'à l'époque, on pouvait rentrer à Sciences Po à Paris si on avait une mention. J'étais à Grenoble à l'époque. Et puis j'ai eu ma mention, mais mes parents, là, ont été vraiment pas sympas. Ils m'ont dit, non, mais tu es trop jeune, tu feras Sciences Po à Grenoble. Et ça m'a du coup fait définitivement renoncer à ma deuxième voie, qui était la médecine. Et c'est vrai, Bérénice, j'hésitais à l'époque entre deux grands métiers, le métier de médecin et puis les métiers de la ville. Métier de médecin parce que j'avais envie de soigner. Soigner les gens, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et en même temps, à Grenoble, j'étais assez influencée par les métiers de la ville parce que Grenoble, à l'époque, était un peu une ville laboratoire dans laquelle il se passait beaucoup de choses du point de vue notamment social. C'est l'époque de la Villeneuve, c'est l'époque du village olympique. Et il y avait une filière très connue avec une agence d'urbanisme en la matière. J'ai donc opté pour Sciences Po, Grenoble. Et j'ai donc commencé comme ça. C'était très sympa parce que le matin, on allait au cours. L'après-midi, on allait au ski. C'était quand même une vie assez rêvée. Rebelote à la fin de Sciences Po, je négociais avec mes parents de faire mon troisième cycle d'urbanisme à Paris. Très bien, je passe mon concours, je le réussis. Là-dessus, mon père est muté à Paris.
Incroyable.
Donc, partons en famille. Oui, le sort s'est arrêté là parce que j'ai pris assez rapidement mon indépendance.
Oui, oui, oui.
Mais voilà. En fait, ce débat, il m'a toujours un peu habité. Et chaque fois qu'on a déménagé avec mon mari, qu'on a changé de ville, je me suis posé la question d'entamer mes études de médecine. Et en fait, j'ai jamais fait parce que j'ai toujours eu l'opportunité de rebondir, de faire un truc très intéressant dans la nouvelle ville dans laquelle je débarquais. Et j'ai jamais fait. Et finalement, maintenant que je suis coach et que toute cette carrière immobilière est terminée d'un point de vue salarié, je m'aperçois qu'il y a une espèce de correspondance entre aménager la ville, aménager les espaces extérieurs, aménager les espaces intérieurs, le logement. J'ai beaucoup travaillé sur le logement. Et puis, le coaching qui est aménager son espace intérieur, trouver un bien-être chez soi. Ça ressemble finalement beaucoup à ces métiers-là. Et c'est une espèce de convergence qui aujourd'hui se fait et qui est probablement à l'origine de tout plaisir que j'ai à faire ce nouveau métier pour moi de coach.
Et on peut faire le parallèle, on peut dire que ça joue sur la santé aussi. Hein. Être bien chez soi, ça joue sur la santé mentale. Et puis, mettre du verre dans la ville, par exemple, aussi, ça joue sur la santé.
C'est vrai. C'est tout à fait vrai. On s'en aperçoit maintenant, après le Covid, de manière encore plus aiguë. Je crois qu'il n'y a plus maintenant un logement qui va être conçu sans un espace extérieur. Et donc, cette relation intérieure-extérieure, qui est la dialectique permanente aussi du coaching... elle est déjà présente dans les métiers de la ville, dans la métier du logement.
Est-ce que vous vous intéressez du coup à tout ce qui est médecine ou voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous étudiez, vous regardez, vous lisez des magazines spécialisés
Ça m'a toujours passionné. Ouais. Ça m'a toujours passionné. Je me souviens que j'avais à l'époque où j'étais directeur d'établissement Nord, c'est un tiers de la France d'ICAD sur tous les métiers de l'époque, c'est juste avant l'entrée en bourse. J'avais ma directrice d'agence, qui était ma collaboratrice à Strasbourg, qui était passionnée d'huile essentielle et de gémologie. Donc on passait des heures, toutes les deux, à discuter. Et un jour, elle est venue me voir en me disant « Écoute, Marianne, j'aimerais bien pouvoir quitter ICAD pour racheter un laboratoire d'huile essentielle et en faire mon métier. » Et je me souviens que toutes les deux, le DRH de l'époque était moyennement d'accord pour ça, parce qu'en plus, ça me faisait perdre, moi, un de mes piliers. On est arrivé à manipuler ça, elle a arraché son laboratoire et voilà, et on est toujours resté très proches et c'est des sujets qui m'ont toujours beaucoup, beaucoup intéressé. Les médecines douces, comment mieux connaître, parce qu'on est complètement ignare. Dans l'éducation aujourd'hui en France, on a des enfants, mais on ne sait même pas analyser un symptôme, on ne sait pas quoi faire.
Mais rien que sur l'alimentation, il y a beaucoup de... de méconnaissance. Justement, vous avez évoqué ICAD, vous avez fait carrière donc dans ce groupe, 45 ans.
C'est vrai.
Ça reflète une
incroyable 45 une fidélité, ans chez ICAD.
Une loyauté. Alors 45 ans chez ICAD, en fait, quand j'ai eu terminé mon cycle d'urbanisme à Sciences Po, je suis allée faire mon stage de fin d'études à la 7. À l'époque, la Caisse avait deux grandes filiales, une filiale aménageur, la 7, une filiale constructeur.
La 7 qui existe toujours,
dont j'ai été administrateur et à laquelle absolument. Je reste très attachée.
Absolument.
Alors la 7, j'ai passé un an et demi, puis après je suis allée faire la troisième année de l'école des ponts, donc j'ai fait une interruption. Et puis, quand j'étais encore au pont, la SIC est venue me chercher pour me proposer d'y entrer. Donc, en fait, je suis entrée à la SIC deux ans après avoir commencé ma carrière dans le groupe. Et j'ai fait, en fait, toute ma carrière, ce qui paraît un peu dinosaure quand on raconte ça comme ça.
Ah ben, c'est juste incroyable aujourd'hui, quand on en parle.
C'est incroyable aujourd'hui.
C'est assez rare, oui.
C'est assez rare.
En fait, un seul employeur.
Un seul employeur. Alors, ça a eu énormément d'avantages et beaucoup de charme. Les avantages, c'est que j'ai pu voir du paysage, voire du pays, en étant dans la même boîte et en voyant évoluer l'immobilier, en traversant différents métiers de l'immobilier, finalement avec beaucoup de confort, parce qu'au fur et à mesure que les métiers de l'immobilier évoluaient, moi-même j'apprenais de nouveaux métiers, en plus je changeais géographiquement d'endroit, donc c'était à chaque fois une découverte. Et je dois dire de ce point de vue-là que je dois beaucoup à ICAD, parce que chaque fois que j'ai dit, voilà, je vais changer de ville, qu'est-ce qu'il y aurait pour moi à Lyon, à Grenoble.
Parce que votre mari était muté, c'est ça ou...
Il était muté. Et donc, moi, je le suivais.
C'est vous qui suiviez, pas lui.
Je suis d'une autre époque.
ICAD vous a permis de suivre aussi, absolument. C'est incroyable. Ça.
Ce qui était absolument génial. Et puis, en même temps, j'ai eu mes quatre enfants avec beaucoup de bonheur et beaucoup de souplesse. Alors, c'est vrai que j'étais là le jour de l'accouchement et j'étais de retour assez rapidement après. Mais tout ça se faisait en bonne intelligence et ça se passait très bien. J'ai beaucoup allaité en public. C'était mon moment de gloire.
C'est génial. Mais Marianne de Bassissi dans le métier, c'est quelqu'un de singulier, hein, vraiment vraiment de singulier. Je vais pas reciter les mêmes citations, mais c'est vrai que la singularité, c'est ce qui fait la personnalité. Et cette singularité, en évoluant à travers toutes ces mutations, parce que vous avez vu transformer ICAD jusqu'à ce que ça devienne ce que l'on sait aujourd'hui, et surtout vous avez su résister aussi à toutes les tentations. Les possibilités de propositions qu'on aurait pu vous faire, mais aussi les crises successives qui ont frappé l'industrie immobilière depuis les 40 dernières années. C'est assez impressionnant. Toute cette mémoire aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle vous est bénéfique ? Vous aide aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des gens suffisamment avisés dans le métier pour vous consulter sur cela ? Parce qu'aujourd'hui, on flippe un peu à tort et à travers sur une crise multifactorielle qui nous touche en ce moment, pour être très clair. Je pense qu'il est bon aussi de retrouver un peu la mémoire et de faire un peu d'histoire dans l'immobilier, ce qui n'est pas toujours le cas.
C'est vrai. Et de ce point de vue-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que avant de quitter ICAD, j'ai eu la chance de travailler avec mon équipe sur la raison d'être et de formuler, de proposer au conseil d'administration d'ICAD cette raison d'être qui a été adoptée et inscrite en préambule des statuts d'ICAD. Cette raison d'être, c'est l'histoire d'ICAD. C'est tout ce qui fait son originalité. Tu disais tout à l'heure, Sylvain, tu as pu résister à des tentations. J'ai aussi une grande chance, c'est que j'ai travaillé dans un groupe qui était à l'abri de beaucoup de choses, parce que c'était un groupe originellement d'intérêt général, une filiale de la Caisse des dépôts. Donc, certes, ICAD est un promoteur,
oui,
certes, ICAD est un
promoteur. Un promoteur aurait pu venir vous solliciter sur des jobs un peu sympas, des chasseurs de tête, une approche. Dans ce métier, il y a une espèce de mercato, vous le savez. Hein. Il y a un mercato dans ce métier à un certain niveau. Vous avez acquis très très rapidement un niveau de cadre dirigeant et vous avez été remarqué et respecté surtout. C'est ça qui est intéressant. Alors, c'est suffisamment rare. Pourquoi je le dis ? C'est suffisamment rare parce que Marianne est l'une des seules femmes dans ce métier de cette génération à s'être élevée à ce niveau-là. Il faut le savoir qu'elles n'étaient pas nombreuses.
Et pourtant, quand vous avez encore une fois quatre enfants mariés. Enfin, c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que vous avez pu gérer
Parce que Marianne, il y a presque un cliché. Elle a raison, Bérénice. Il y a presque un cliché, presque. C'est presque, j'allais dire, c'est l'appartement témoin. C'est qu'on a une femme remarquable, extrêmement belle, intelligente, élégante, mariée, un mariage qui dure, quatre enfants. Enfin, c'est la famille témoin. Voilà, la famille témoin. Et on se dit, tiens, c'est intéressant. Souvent, on associe le fait, pour une femme, eh bien, vous le savez, puisque aussi, de, j'assume des fonctions d'encadrement, de direction d'une rédaction, par exemple, puis j'ai les enfants, puis ça paraît normal. Mais ce qui paraît surtout normal, et, ce qui est, et c'est ça qui interpelle, c'est que, tout à l'heure je vous ai posé la question, c'est vous qui avez suivi les mutations de votre mari, c'est pas votre mari qui a suivi vos mutations. C'est vous qui vous êtes occupé des enfants, directement.
Il s'en est beaucoup occupé aussi.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, il y a une espèce de naturel où on se dit, c'est normal que les femmes suivent leur mari, et c'est normal qu'elles assument des fonctions exécutives d'une journée bien remplie, plus s'occuper de la maison le soir. Je trouve que, voilà, ça pousse à la réflexion aujourd'hui.
C'est vrai que la société est exigeante avec les femmes. Est-ce que vous le ressentez aussi ?
Vous l'avez vécu ?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en même temps, c'est une formidable corde de rappel, la famille. Parce que je pense que j'aurais pas eu cette famille, ces responsabilités familiales, j'aurais pas eu le goût de m'occuper de mes enfants et de construire. Construire, ça, c'est sûr que j'ai eu le goût de construire. Je pense que j'aurais pu tomber dans le work-alcoolisme, j'aurais pu travailler encore davantage. Et le fait d'avoir une famille et des enfants, ça stabilise bien le système.
Vous avez trouvé votre équilibre facilement ?
L'équilibre, c'est un effort permanent. Ouais. Donc c'est jamais acquis.
Parce que ça, c'est pas évident quand on est une femme. Hein.
Non, c'est pas évident du tout. Et je le vois bien avec mes filles aujourd'hui. Elles sont très attachées, elles aussi, à leur vie familiale, mes fils aussi. Et je pense que c'est un gage de bonheur et de réussite. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux être multifonction que monoculture. Si on investit absolument tout dans sa famille ou dans son travail, si on met tous ses œufs dans le même panier, il y a quand même un risque d'emballement. Et puis un risque de déception.
Ah oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, vous résumez assez bien l'équilibre d'une vie. Hein. C'est une question d'équilibre. Vous avez le pied professionnel, le pied personnel, intime, le pied familial, le pied social. Et en fait, tout ça, c'est une articulation avec un équilibre. Ça va pas être facile pour les générations à venir, hein, finalement.
Non.
Est-ce
non.
que vos enfants ont réussi à retranscrire, dans une certaine mesure, à la fois la mémoire que vous leur avez transmise, mais aussi l'éducation? On en parle beaucoup aujourd'hui. Cette génération un peu fustigée, quelque part. Je résume, hein, qui mange des graines ou qui fait du vélo. voilà. On a toujours ces idées. Est-ce que cette génération-là, celle que vous avez, finalement, portée, vos propres enfants, ont su, avec une certaine dignité, refléter l'éducation que vous avez voulu leur transmettre?
Il faudrait leur demander, mais...
Vous en êtes fier aujourd'hui, de vos enfants?
Bien sûr, j'en suis très très fier. Ouais. Et surtout, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des choses contre lesquelles ils étaient vent debout. Je donnais un exemple tout bête. Quand les enfants étaient petits, on les emmenait faire du vélo. À l'époque, on était à Rouen, donc on enfourchait nos vélos et on allait à la Forêt Verte, promener la famille. Évidemment, ça leur cassait les pieds. Ou je les emmenais à la piscine. Moi, je suis nageuse, donc je les ai beaucoup fait nager. Donc j'ai eu beaucoup de résistance par rapport à ça. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'ils font du vélo et qu'ils vont à la piscine et qu'ils apprennent ça à leurs enfants. Donc je pense que quelque part, voilà, c'est le cycle normal.
Et tout les valeurs sont transmises, en fait.
Oui, oui. Et on parlait de l'opéra tout à l'heure.
Très important, ce que vous dites.
Moi, je peux vous dire que j'ai, l'autre jour, été très attentrie de croiser une de mes petites filles en train de chanter l'air de la Serenentola, qu'on était allés voir ensemble deux mois plus tôt.
C'est génial.
Et donc, il y a des tas de choses qui bien passent sûr. Comme ça, peut-être de manière subliminale, mais qui sont présentes.
Combien de petits-enfants aujourd'hui ?
On attend le 9e.
Le 10e, c'est extraordinaire.
Quel âge ont vos enfants ?
Alors, ma fille est née à 42 ans, ensuite 40 ans, bon, c'est son frère. Après, Bérénice, on a 37, et mon dernier Maxence, on a 34.
D'accord. Donc oui, une grande fratrie. Hein.
Ouais.
Neuf petits-enfants.
Voilà.
Une belle famille. Et justement, rétrospectivement, quand vous vous dites, je pense que ça doit vous arriver, vous vous dites, voilà, dans la génération dans laquelle je suis, après 45 années d'investissement dans un grand groupe national, d'un parcours effectivement hors norme, hein, on peut le dire, rétrospectivement, quand vous vous posez la question, vous vous dites que votre vie, elle a été très largement réussie, est-ce que vous ressemblez à la femme que vous aviez voulu être ? Est-ce que la version de vous-même d'aujourd'hui ressemble à celle auquel vous aviez aspiré ou rêvé ?
Oui.
C'est remarquable. Vous le dites spontanément, c'est ça que j'adore chez vous. Le dites spontanément, voilà. Vous dites oui.
Je réfléchis à votre question, parce que c'est quand même une question qui est très très importante, elle est même existentielle.
Clairement.
Donc la question que je me suis posée en vous écoutant, c'est est-ce que... Est-ce que j'avais une idée précise de ce que je voulais être? Une idée précise de ce que je voulais être J'avais une idée précise de ce que j'avais envie de réussir.
Oui. Et la femme, la femme que vous êtes aujourd'hui, intérieurement, extérieurement, vous avez, à la grâce de Dieu, si tant soit qu'il existe une santé où vous faites aussi très attention à vous, vous êtes quelqu'un qui avait un très bel entretien, vraiment beaucoup beaucoup d'élégance. Est-ce que justement vous dites j'ai eu de la chance dans ma vie et que quelque part quand vous aviez 17 ans, quand vous sortiez de Sciences Po, quand vous avez fait votre troisième cycle d'urbanisme, vous vous dites je serai comme ça plus tard?
Quand j'avais 17 ans, j'étais animée par une énergie considérable. Je dévorais la vie. J'avais envie de faire, d'avancer.
C'était l'ambition, une ambition?
Non, c'était pas de l'ambition. Bah, c'était une ambition. D'abord, j'avais une ambition personnelle. J'avais envie de réussir ma vie personnelle, ça c'est sûr. J'avais une ambition professionnelle. J'avais envie de travailler. C'était très très important pour moi. Ma mère ne travaillait pas, et même si mes parents s'entendaient très très bien, j'ai souvent vu que la dépendance financière de ma mère par rapport à mon père n'était pas forcément l'idéal. Et je ne voulais pas de ça.
Ah oui.
Donc j'avais.
Vous avez fait le schéma inverse en fait.
Ouais. C'est ça. Donc je voulais absolument travailler. Et je me souviens d'ailleurs que chaque fois que j'étais enceinte et que j'annonçais ça à maman,
ça
maman me disait
clair,
encore
très
un,
clair
encore
pour
un.
Vous.
Et vraiment, et quand est-ce que tu vas t'arrêter de travailler? Donc c'était quand même le schéma familial. Donc pour moi, c'était essentiel de travailler et de réussir cette vie professionnelle. Donc oui, au départ, j'avais ces deux ambitions-là. Et c'est vrai que quand je me retourne sur ce qui s'est passé, je suis arrivée peu ou prou à les mener. Donc c'est vrai que c'est pour moi, c'est très agréable, c'est une grande satisfaction. C'est probablement ça qui me prépare au métier d'aujourd'hui. C'est que c'est vrai que quand j'étais très jeune, j'étais animée par l'action. J'étais très agissante. Mon projet, en terminant ma vie de salariée, c'était justement d'apprendre tout ce que j'avais peu fait dans ma vie, c'est-à-dire me mettre dans le moment présent, me mettre à l'écoute des autres, mais aussi de moi-même, de prendre le temps.
Est-ce que vous avez l'impression que le temps que vous prenez aujourd'hui, c'est un temps que vous n'avez pas pris? Est-ce que ce recentrage presque philosophique dans la direction de votre vie, c'est quelque chose qui vous a manqué? Parce que quand je vous entends, j'entends quelqu'un qui, en fait, pratique au quotidien une forme de thérapie. Une thérapie pour soi, une thérapie pour les autres. D'ailleurs, un thérapeute, souvent, l'est autant pour lui-même que pour le patient qu'il a, ou la personne pour laquelle il exerce cette thérapie. Et souvent, c'est l'occasion aussi de se recentrer. Alors, parfois, il y a cette forme d'altérité, elle est parfois un peu dure à vivre, parce que parfois, on met l'accent sur des vides, sur des failles, qui ne sont pas toujours faciles à assumer, quand même.
Choisir, c'est renoncer. Donc, il est évident qu'en faisant les choix professionnels, notamment que je faisais, je renonçais à un certain nombre de choses. Okay. Un certain nombre de choses, le temps pour moi-même. Enfin, cela dit, les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est exactement pareil. Donc, je ne suis pas un cas unique.
Hein. Oui.
Mais c'est vrai que, pour répondre à votre question, oui, j'ai conscience d'avoir aujourd'hui le temps de faire des choses que je n'ai pas faites à une certaine époque. Mais j'en ai fait d'autres. Et je les ai faites en conscience.
Oui.
Et je ne regrette pas.
Oui, il n'y a pas de regret. Mais aujourd'hui, vous assumez. Finalement, même s'il y a une interrogation, une interpellation, vous l'assumez complètement.
Ah oui.
Et c'est ce que vous essayez de transférer. Je trouve ça assez remarquable. Finalement, la retraite, ça n'existe pas pour vous. On a des vies successives.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, j'ai pas honte d'être à la retraite. J'aspirais à cette nouvelle vie, et ça me gêne pas du tout de dire que pourquoi vous voyez.
Non, parce que non, mais c'est le fait de quand vous rajoutez, j'ai pas honte. En fait, aujourd'hui, moi, je déteste le mot retraite. Je vous le dis, je déteste le mot retraite. Et je déteste le mot retraite parce que dans le mot retraite, il y a retiré. Il y a retiré. Je me retire de quelque chose. Vous êtes retiré de rien.
C'est un renouveau, en fait. C'est un
On va
appeler ça la remettre.
Mais c'est comme quand on travaillait sur l'aménagement du territoire. Notre ami philosophe Thierry Pacot disait on ne devrait pas parler d'aménagement du territoire, mais de ménagement du territoire, c'est-à-dire de prendre soin du territoire. Je pense que vous êtes quelqu'un qui, toute votre vie, avait appris avec ménagement extrêmement soin des autres, soin de votre mari, soin de vos enfants, soin de l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé.
C'est une très belle expression.
Oui.
45 ans chez ICAD, on va écouter justement le premier témoignage, celui de votre ex-bras droit, Charlotte Pajot. Donc c'est le témoignage collaboratrice, Pajot Blanchard, pardon.
Nous sommes en compagnie de Charlotte Pajot Blanchard. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Vous avez été collaboratrice de notre invité du Mac de Limo, Marianne de Battisti. quelles ont été justement les circonstances de votre rencontre ?
Eh bien, écoutez, j'ai travaillé avec Marianne pendant près de 12 ans, puisqu'on s'est rencontrés en 2010, à l'époque où ICAD a racheté la foncière dans laquelle je travaillais, qui s'appelait Compagnie La Lucette, qui a été intégrée au syndicat. J'ai envie de parler d'un coup de foudre professionnel. Je ne sais pas si c'est très habituel de dire ça, mais je crois qu'on s'est beaucoup apprécié très très rapidement. Et puis après, c'est une relation qui s'est construite au fil du temps, puisque Marianne m'a accordé sa confiance. Elle a contribué à me faire évoluer au sein du groupe en me donnant de plus en plus de responsabilités et puis tout en me transmettant tout son background à la fois d'opérationnel puisqu'elle a commencé, il faut le savoir quand même, avant de faire de la communication, Marianne a eu une vie professionnelle d'opérationnel qui lui donne beaucoup de crédibilité et de légitimité sur les sujets. Et ça, ce sont des choses qu'elle m'a transmises et qu'elle a partagées volontiers avec moi tout au long de ces années.
Alors justement, quand on parle de Marianne, pouvez-vous nous parler de sa personnalité ? Comment elle est ?
Alors, Marianne, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'optimiste. J'ai que des mots positifs qui me viennent, mais c'est quelqu'un avec qui on rit énormément. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui aime les gens qui ont de l'humour également, et donc elle met de la joie de vivre et de la lumière dans tout ce qu'elle fait et dans ses relations avec les autres.
D'autres traits de personnalité marquants ?
Oui, Marianne a le sens de la famille. Elle a fait toute sa carrière au sein du même groupe. Elle a toujours eu la confiance des actionnaires, d'ailleurs, et notamment de la CDC. Et on peut dire que c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle et constante dans ses relations.
Est-ce que vous avez une anecdote, justement, à nous partager ?
Alors, oui, j'en ai une, tout à fait. On a eu l'occasion de participer à un événement qui s'appelait The Village, qui était un événement organisé comme un think tank au plein cœur de la Pampa, du côté de l'Occitanie. Et il se trouve que Marianne avait, s'était vue attribuer une chambre d'hôtel assez luxueuse, alors que moi-même et Anne Kéméré, qui nous accompagnait, qui est une navigatrice, on avait des lits superposés chez l'habitant. Eh bien, Marianne a essayé de nous faire venir dans son hôtel, c'était pas possible. Et donc, elle est venue dormir avec nous. On a dormi toutes les trois dans des lits superposés et c'était vraiment un souvenir mémorable.
Une dernière question. Bah justement, Marianne est avec nous en plateau, elle vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
J'ai envie de lui dire, Marianne, reste comme tu es. On a tous énormément de chance de te connaître. Moi, tous les gens que je rencontre aujourd'hui dans ma nouvelle vie professionnelle me parlent de toi et je leur parle de toi également. Tu as su tisser autour de toi et autour de l'ICAD des relations vraiment de très très grande qualité, très solide, de confiance, à la fois avec tes collaborateurs, mais aussi avec les clients, mais aussi avec tout un réseau de personnalités, de journalistes, d'experts qui gravitent autour d'ICAD et qui ont beaucoup de bienveillance pour cette société. Et ça, c'est grâce à toi.
On aimerait
un beau témoignage.
On a rarement des témoignages aussi...
Touchant
et vrai, surtout argumenté, vrai. Avec du contenu.
Mais c'est la douche de bien-être, hein, chez vous je reviendrai, c'est merveilleux, ça fait du bien.
Mais c'est la loyauté, la fidélité chez vous, Marianne, c'est quelque chose qui revient systématiquement à toutes les personnes dont j'ai parlé de vous.
C'est bien, mais ça
alors,
fait très plaisir.
Et puis il y a quelque chose qui revient, c'est... alors je l'avais déjà remarqué, parce que vous, quand vous souriez, c'est tout votre être qui sourit, de la tête aux pieds. C'est-à-dire que vous êtes d'ailleurs, c'est pour ça que vos maxillaires supérieurs sont musclés, c'est parce que vous vous marrez tout le temps. Et c'est vrai que vous avez quelque chose de l'ordre, elle l'a dit, vous répandez de la lumière, c'est pas moi qui le dis, c'est Charlotte. Vous êtes lumineuse. D'où ça vient, ça ? Je veux dire, ok, il y a l'éducation, vous avez certainement eu des parents aimants, une belle éducation, mais il y a quelque chose au tréfond de votre être qui vous conduit naturellement à porter cette façon d'être. Vous y avez pensé ? C'est quoi ? Vous avez...
Et ça vient de vous, ça vient du fait que c'est bon d'être avec les autres, c'est bon de partager, c'est bon de se sentir vivre dans la relation. Ça vient pas de moi, ça devient...
Vous avez jamais été tenté par des élans...
De perception de la vie, en fait.
Jamais tenté par des élans misanthropiques, en vous disant, les gens, j'en ai marre, j'ai vu trop de choses, parce que des choses... pas très sympa, vous en avez vu plein en 45 ans.
Misanthropique, non. Jamais. Par contre, ce serait mentir que de dire que j'ai pas traversé des épreuves professionnelles. Et c'est d'ailleurs ce qui m'aide énormément aujourd'hui à accompagner mes clients, mes coachés. C'est qu'en général, quelqu'un vient avec un sujet, avec une difficulté, avec un conflit, avec un problème de management, un problème d'organisation, un problème de légitimité. Toutes ces situations-là, peu ou prou, je les ai vécues. Soit pour moi-même, soit dans mon environnement proche, mais très souvent pour moi-même. Et donc, c'est vrai que je suis optimiste parce que je sais qu'on peut s'en sortir et qu'on n'est pas laminé par des situations comme ça-là. Et au fond, ce que j'ai appris d'extraordinaire dans ce métier de coach, parce que je me suis formée pour l'apprendre, c'est que il faut savoir décaler un tout petit peu sa perception par rapport à ce que l'on ressent. C'est-à-dire que ce que l'on ressent quand on a l'impression de tourner dans une ornière, de ne pas s'en sortir, d'être dans un problème insoluble, le fait de sortir un tout petit peu de soi-même, de se regarder comme un observateur et de regarder comment on fonctionne par rapport aux autres, c'est la clé, c'est la solution au problème. Car en fait, très souvent, on est soi-même son propre piège. Moi, je l'ai été. Quand j'ai tourné sur des problèmes qui me faisaient souffrir, je me suis rendu compte de manière peut-être pas très consciente, parce qu'à l'époque, je n'étais pas formée à cela, que c'est en fait en prenant juste en considération l'autre, la manière de voir l'autre, un environnement qui est différent de sa perception à soi, en décalant un peu son point de vue, et ben c'est comme ça qu'on arrive à comprendre qu'on peut fonctionner différemment avec les autres, notamment dans un conflit interpersonnel. Si deux minutes, on se met à la place de la personne qui est en face, si on comprend que certes, elle m'exaspère, mais je suis exaspérante et peut-être encore plus exaspérante qu'elle-même. Et si je décide de modifier un peu, mon comportement, c'est très systémique. Le système se modifie, ça pivote et ça change.
Et ça demande une élévation et de l'empathie.
Oui, bien sûr que ça demande de l'empathie. Ça demande d'aimer, y compris celui avec lequel on est en difficulté.
Là, vous venez de résumer un livre magnifique que je conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent, d'un philosophe que j'ai eu la chance de connaître, qui nous a quittés il y a très longtemps maintenant, qui s'appelle Emmanuel Levinas, dans un livre qui s'appelle « Totalité et infini », quand il parle de l'altérité et de l'autre. Et en fait, il résume le sens de l'existence par l'existence de l'autre. Et en fait, c'est le regard de l'autre. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est que vous savez, c'est comme quand vous apprenez qu'un de vos proches peut être la victime ou le bourreau. La victime, on est tous en empathie et en passion avec la victime. Lorsque votre proche est l'auteur d'un fait, quelle position vous avez vis-à-vis de ça ? Et lorsque on se met à la place de celui qui est de la famille de l'auteur, comme de celui qui est de la famille de la victime, mais dans toutes les relations, on voit sur un prisme différent. Et vous avez raison de le dire, parce que notre perception, parfois, elle est un peu dure, elle est un peu même vindicative, elle annihile complètement ou elle anesthésie même toute autre forme de raisonnement. Mais si on se met un tout petit peu à la place de l'autre, effectivement, ça nous rend un peu plus humbles, et je pense que notre ego en prend un coup, et je pense que c'est une belle leçon que vous nous donnez là.
Et en plus, elle nous handicape considérablement, cette hostilité. Elle nous handicape parce c'est qu'elle vrai, nous... Hein. Empêche de recevoir ce que l'autre nous envoie, qui est peut-être négatif, mais au-delà du négatif, c'est une forme de cadeau. Tant que l'autre me dit « là, je ne suis pas d'accord » ou « là, tu as mal fait » ou « là, j'attends autre chose de toi », soit on le prend comme une agression, on devient un hérisson, on rejette, et on va se priver d'une information très importante, soit on accepte d'accueillir et on se dit « au fond, c'est courageux de me dire ça, quelque part ».
Bien sûr.
Et si j'accepte de pivoter un tout petit peu, de prendre en compte le sentiment de l'autre, on va évoluer ensemble. Et l'autre me dira, une autre fois, ce qui dysfonctionne, il y a des tas de choses que je fais qui ne vont pas, et le fait que quelqu'un ait la générosité de me le dire, c'est plus facile de rien dire à quelqu'un.
Hein. Oui.
Bien sûr.
Mais oui.
On va écouter tout de suite votre deuxième choix musical, Aragon, chanté par Jean Ferrat, et particulier J'entends.
J'en étant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leur voix, qui disent des choses banales, comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, vos pierres tendres, tout usées, et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble. Le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment. J'y crois aussi moi par moment, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil. Ah, je suis bien pareil à vous. À vous comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Ah, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autre moi-même. Mais les mots qu'au vent noir je sème, qui sait si vous les entendez. Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains. Et vous passez votre chemin, sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien, nous vivons sous le même règne. Et lorsque vous saignez, je saigne et je meurs dans vos mêmes liens. Quelle heure est-il, quel temps fait-il, j'aurais tant aimé cependant. Gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou, mieux valu la terre. Vous me mettrez avec en terre, comme une étoile au fond d'un trou.
J'entends, j'entends par Jean Ferrat. Pourquoi ce choix ?
Magnifique.
Ce poème est absolument magnifique parce qu'il rend sa dignité à ceux qui n'en ont plus. Il est d'une humanité absolument magnifique. Et le poète sait aller chercher vers ceux qui sont les plus humbles, que personne ne voit, les fameux invisibles, ce qu'il y a de plus précieux, le fait qu'ils ont une vie, une espérance, même si personne ne les voit et personne n'en parle. C'est pour moi quelque chose de très important. Il y a aussi quelque chose qui me parle beaucoup, c'est que le poète dit dans ce poème « avoir été peut-être utile ». Et il me semble que ça, c'est le sens d'une vie. Avoir été peut-être utile.
Être utile, donner du sens à sa vie.
Oui, avoir été utile. Enfin, pour moi, l'utilité, c'est vraiment très très important. Bien plus que l'efficacité, bien plus que l'excellence, bien plus que la performance. C'est peut-être plus modeste, mais c'est plus juste. Avoir été utile dans sa vie personnelle, professionnelle.
Est utile en général.
Exactement. Exactement.
Mais il vaut mieux être utile qu'être utilisé.
Et il vaut mieux être utile qu'être utilisé, c'est vrai.
Quoique quelqu'un d'utilisé peut être utile aussi.
Oui.
Absolument. Tout dépend comment on l'utilise.
On est d'accord.
Et puis j'aime bien cette image de la fin de l'étoile au fond du trou, parce que ça veut dire qu'au fond de chaque trou, il y a une étoile. Alors en plus, j'ai un fils qui fait dans le spatial, qui a monté une start-up qui fait des télescopes, donc on regarde beaucoup le ciel ensemble.
Ah oui, carrément.
Et les étoiles, c'est très important pour nous. L'étoile, c'est vraiment quelque chose qui appelle. L'étoile du berger, c'est le guide. Et même au fond d'un trou, il y a une étoile. Je trouve que l'image est magnifique.
Oui, oui. Et c'est un peu une parabole de l'obscurité, des ténèbres. Il y a toujours une toute petite lumière. Il suffit d'éclairer une toute petite allumette et elle éclaire l'immensité des ténèbres. C'est comme quoi il y a toujours, effectivement, au fond d'un trou, une lumière, une étoile qui naît.
Alors, j'aimerais revenir sur votre carrière. Vous avez commencé votre vie professionnelle plutôt dans la maîtrise d'ouvrages publics. Et puis, vous avez terminé plutôt dans le privé, hein, avec l'entrée en bourse d'ICAD, le financier. Justement, alors, c'est assez rare aussi d'avoir connu les deux mondes.
C'est vrai, et ça, je le dois à ICAD. C'est qu'ICAD a tellement évolué pendant ces 50 ans que moi, je suis entrée dans une boîte qui était une filiale à 100% de la Caisse des dépôts et qui faisait la maîtrise d'ouvrage public. Des grands hôpitaux, des grands équipements, c'était passionnant. Faire un hôpital, une programmation hospitalière, je pensais... Je me souviens de ces heures passées à faire des écorchés fonctionnels, à mettre les urgences à côté de la radio. Enfin, bon, tout ça, c'est passionnant.
c'est génial.
Et puis, en même temps... Dans mon métier opérationnel, il y avait le logement. Non seulement le logement à construire, acheter des terrains, déposer des permis, les construire, et ensuite les gérer. Parce qu'il y avait une activité de gestion de patrimoine résidentiel, plutôt intermédiaire. Pas vraiment logement social, mais pas vraiment logement privé. Donc tout ce contact avec les habitants qui m'a passionnée et qui finalement me permettait dès le départ de... passer d'une relation avec un élu à une relation avec un habitant ou un gamin de 10 ans qui dégradait les boîtes aux lettres, dont je convoquais les parents. Les parents venaient pas, c'était le gamin qui venait avec un air goguenard et en regardant ses chaussures. Et c'était moi qui lui disais qu'il fallait arrêter de dégrader les boîtes aux lettres. Donc c'était passer d'un monde à l'autre en permanence, parce qu'en fait tout ça, ça fait la ville. Et puis ICAD a évolué, a commencé à faire du bureau, à faire du logement en accession à la propriété, moi aussi du coup. Et puis, là-dessus est arrivée la financiarisation de l'immobilier, ICAD est entré en bourse, et là on a complètement basculé dans un autre monde.
Ouais.
Et le patron d'époque m'avait demandé de m'occuper de la communication financière, donc de la présentation de l'entreprise au marché, après une réorganisation très intense. En l'occurrence, ma filiale que je dirigeais à l'époque partait à la Caisse des dépôts, donc il fallait bien que je fasse autre chose. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai créé cette direction de la communication qui avait la communication financière, et puis une direction de l'international, parce que je ne voulais pas lâcher l'opérationnel. Pour moi, c'était trop important.
Oui. Ça vous stimulait ?
Ça me stimulait, puis c'était mes bases. Oui. Je n'avais pas envie, à l'époque, d'être dans un rôle fonctionnel uniquement. Et alors là, j'ai découvert le monde des avocats et des banquiers d'affaires... et de l'entrée en bourse. Où, à l'époque, j'étais aussi présidente d'une filiale qui s'appelait ICAD Pierre pour tous et qui faisait de l'accession sociale. Et je me souviens d'avoir discuté avec des jeunes banquiers qui me disaient « Quoi, accession sociale? Mais comment est-ce qu'on va présenter ça? C'est pas dans le monde de la bourse, ça ne va pas, etc. »
Donc vous êtes passé en fait des élus aux financiers, en fait.
Alors les élus, je ne les ai jamais quittés. Parce qu'en fait, y compris en bourse, ICAD continue à travailler sans arrêt avec les élus. Donc là, c'était l'éternelle relation. Et heureusement d'ailleurs, parce que ce monde des élus a créé des amitiés extrêmement fidèles. Et j'ai rencontré des gens...
Vous les admirez beaucoup, les élus?
Mais bien sûr, ils ont une fonction qui est... incroyable, c'est eux qui font le grand écart entre l'immobilier financier, celui qui vient faire des bureaux, ou la foncière qui veut vendre un immeuble, et puis...
Surtout les élus locaux qui ont une vraie mission...
Exactement, et puis les mal logés qu'il faut bien loger, pour lesquels il faut trouver une structure. Et la ville, c'est tout ça, plus les espaces urbains, plus les transports, plus les mobilités douces, plus l'énergie, etc. Donc, être élu local aujourd'hui, ça demande une somme de compétences et de qualité comportementale absolument exceptionnel. Et en plus, tous les 5 ans, on repasse devant le suffrage universel et on risque de se faire laminer pour des mauvaises raisons.
Pour des mauvaises raisons, absolument. Et souvent, un manque de reconnaissance. D'ailleurs, on le voit bien avec les élus locaux.
Qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
Les maires de France, qui sont souvent d'ailleurs, malheureusement, et je loupe jamais l'occasion de le dire, méprisés par un pouvoir aujourd'hui qui leur transfère des compétences sans leur transférer la moindre recette. Bon, on va pas reparler de la taxe d'habitation, la RLS pour les bailleurs sociaux et d'autres sujets comme celui-là. Mais effectivement, c'est un sacerdoce. Et d'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez des élus locaux, parce que cette année 2023 et l'année 2022 a été une des années depuis la 5e République où il y a eu le plus de maires qui ont déposé un petit peu jeté l'éponge en cours de mandat. C'est quand même assez rare, hein.
Grâce d'ailleurs en partie aux réseaux sociaux, parce que le problème maintenant, c'est que tout le monde donne son avis, non argumenté, c'est un peu ça le problème, sur des questions qui sont sensibles, qui mériteraient un débat. Et le débat avec l'information directe et immédiate, il est devenu un petit peu difficile à organiser.
Et les réseaux sociaux attisent la haine aussi, on le voit. Hein, il y a vraiment une montée en puissance.
On appelle ça les haters. Ouais. Les haters.
Ouais, c'est si facile.
Hein. Ouais. C'est un déversoir, d'ailleurs. Ce qui est quand même assez, assez désespérant, c'est qu'on voit que les petites vidéos là, qui marchent le plus, c'est les vidéos un peu haineuses, ou les vidéos où les gens se cassent la gueule, où c'est un truc bien rigolo, bien gras. Voilà, un peu de sérieux entre les deux, ça ne fait jamais rire. Ou les animaux, voilà.
Oui, les vidéos de petits chats, apparemment, voilà. Ça marche très bien.
En fait, je vais vous dire, on vit dans une époque très émotionnelle, où quand on fait appel qu'à l'émotion, et qui abroge donc toutes les limites de la raison, ou de l'analyse, ouais. Ou du temps long nécessaire pour avoir un exercice autocritique. C'est Alain Finkielkraut dans son livre qui s'appelait Le Mécontemporain, qui écrit qu'il y a une urgence à se débrancher et qu'il faut rétablir un peu les plaisirs difficiles. Ce qu'il dit, c'est facile d'aligner des vidéos, par contre il est beaucoup plus compliqué que de lire un livre, un plaisir plus profond. Moi j'aime beaucoup ça, donc forcément je suis pas très objectif, mais ça passe par cela.
C'est aussi la théorie d'Étienne Klein. Il l'explique très très bien, Étienne Klein. Il explique que s'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas de difficulté, alors c'est juste pas la peine. Et on n'obtiendra rien du tout.
Mais c'est comme le sport. Vous voyez, le sport, par exemple, on voit ceux qui sont sportifs comprennent, même si certains n'ont pas forcément le degré de culture, ils comprennent cette façon qui est liée à l'effort. Et dans l'effort, il y a du plaisir. Il y a une transcendance du plaisir dans l'effort.
Bien sûr.
Et le plaisir difficile, c'est de se dire, voilà, au lieu d'avoir un chat GPT...
C'est un plaisir immédiat, mais qui est beaucoup moins intense que le plaisir final de l'effort, en fait.
Et puis, ça sert à rien de confisquer à l'individu cette capacité autocritique qu'il peut avoir, et c'est malheureusement l'une des vertus et d'un travers mauvais des réseaux sociaux, c'est de s'ériger du jour au lendemain en poète, juge, parti, bourreau, etc., extrêmement facilement, extrêmement lâchement, parce que c'est souvent des gens qu'on voit pas vraiment...
C'est anonyme, voilà, bien sûr. C'est
on va passer
plus facile.
Tout de suite au deuxième témoignage, parce qu'on a plus beaucoup de temps, il s'agit de votre amie Marianne Louradour, présidente de CDC Biodiversité.
On est en compagnie de Marianne Louradour. Bonjour Marianne.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes une amie d'une autre Marianne de Battistini, notre invitée du jour. Comment vous êtes rencontrée?
Avec Marianne, on s'est rencontrés il y a très longtemps dans un voyage professionnel, une learning expedition en Inde. Et on s'est retrouvés pendant 3 jours, comme ça, dans ce voyage totalement dépaysant. Et on a fait connaissance tout de suite de manière assez proche et de manière assez intime. Et après, nous avons continué de nous voir de loin en loin ou de près en près dans nos différents postes professionnels, notamment à l'intérieur du groupe Caisse des dépôts.
Et c'est devenu une amie, en tout cas vous la connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire sa personnalité?
Oui, c'est devenu une amie et vraiment quelqu'un auprès duquel j'aime aller prendre des conseils. Sa personnalité, elle est enthousiaste, elle est rayonnante, elle est généreuse, elle aime beaucoup, et donc c'est pas étonnant qu'elle soit partie vers le coaching, parce que elle aime aider, elle aime conseiller, elle aime accompagner, et il y a tout ça dans cette très belle personnalité de Marianne.
Alors Marianne est avec nous sur le plateau, elle vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Écoute, Marianne, moi j'ai envie de te dire, tu es partie dans une nouvelle aventure professionnelle, tu es en train de la réussir, évidemment, parce que la réussite et de toute façon toujours en toi, et il faut qu'on trouve tous les moyens de continuer notre relation. On a évidemment bien sûr le Cercle des Femmes du Grand Paris entre nous à conserver, à développer. Je sais que tu vas y mettre beaucoup d'enthousiasme et de passion, et puis nous avons encore plein d'occasions de rencontres, et je m'en réjouis très sincèrement.
Un très beau témoignage, une grande dignité.
J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que c'était important de demander à une amie de témoigner, y compris sur des sujets qui me sont très chers. Et le fait qu'aujourd'hui, Marianne ait embrassé cette carrière de patronne de CDC Biodiversité, c'est pas étranger à mon choix. Je pense que c'est un vrai sujet, et un vrai sujet immobilier, qu'on est en train d'ailleurs de développer. On est probablement encore très en deçà de ce que l'on voudrait faire. Mais c'est un sujet qui me parle, alors au plan professionnel et aussi au plan personnel. Et dans mon travail d'aujourd'hui, je vois à quel point la relation avec la nature est essentielle, y compris pour l'équilibre personnel.
Et ça, vous vous en êtes rendu compte après, je veux dire, vous n'étiez pas comme ça
Moi, j'ai toujours aimé la nature. Moi, j'ai toujours vécu en montagne, au bord de la mer, je suis à la fois Corse.
Grenoble,
Voilà, Grenoble, la montagne.
Corse du sud,
La maison de famille est au sud de Bastia.
Ah, très bien.
La famille bastiaise. Donc la mer, pour moi, c'est très important. La montagne, j'aime beaucoup. La nature, j'aime beaucoup. Je me rends compte aussi, suite au Covid, que c'est un besoin partagé par tous.
Vous les avez passés où, vos confinements ?
Moi, je les ai passés à Villard-de-Lans, au-dessus de Grenoble, où on a une grande maison et qui permettait d'accueillir ceux des enfants qui avaient besoin, notamment un de mes fils, qui est pas celui dont je parlais tout à l'heure, mais qui est un autre, qui est chercheur en imagerie médicale, et qui bossait dans une boîte belge. La Belgique était très verrouillée à ce moment-là.
Ah oui.
Et il a donc passé un an et demi avec nous à Villard-de-Lans. Alors évidemment, je faisais des navettes parce que je revenais à Paris toutes les semaines, mais j'ai quand même passé beaucoup, beaucoup de temps là-bas.
Bien sûr.
Et c'était un ressourcement extraordinaire. J'ai l'impression que c'est à partir de là que j'ai commencé à voir vraiment les saisons. Avoir le cerisier en fleurs, avoir la nature se modifier autour de moi.
Quelle drôle d'ironie du sort, hein, en tant qu'être humain, de redécouvrir ce à quoi on était voué dès l'origine, le rythme des saisons, etc. Parce que on a l'impression qu'on a une innovation qui est celle de remettre de la biodiversité ou de la nature, mais en fait, en réalité, à partir jusqu'en 1840-50, on était en pleine biodiversité et nature.
Bien sûr.
C'est un accident de l'histoire industrielle. D'ailleurs, Bertrand de Feydeau le résume extrêmement bien, que les hommes soient venus en ville, parce qu'en général, on vivait tous auprès de la nature et depuis très longtemps. D'y redécouvrir, c'est presque une ironie du sort.
Oui.
Là où on célèbre aujourd'hui la technologie, on n'a qu'une aspiration, c'est de retrouver finalement l'économie locale, la place de marché, le jardin, la perspective, le vert, l'air.
Mais je pense que là aussi, les deux ne sont pas incompatibles.
Non,
c'est une forme d'équilibre à nouveau.
C'est très clair.
Alors, une de vos passions, c'est votre famille, hein, vous l'avez dit. On va écouter justement le témoignage de votre fille aînée, Adeline.
Bonjour Adeline de Battisti.
Bonjour.
Vous êtes donc la fille de notre invitée, Marianne de Battisti. Première question, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez nous décrire la personnalité de votre maman?
D'abord, et c'est peut-être pas seulement parce que je suis sa fille, mais elle a un grand sens de la famille. C'est vraiment son ancrage et son foyer, son envie de réunir. C'est pas par hasard, à mon avis, qu'elle s'est épanouie dans le professionnellement, en tout cas dans le domaine du logement et de l'habitat. Je dirais aussi qu'elle est, et ça je pense que personne ne me contredira, extrêmement énergique, dynamique, inspirante, c'est une locomotive, hein. Elle est très convaincante et convaincue. Maman, elle est aussi très courageuse, elle est très solide, elle est entreprenante et combative, et elle ne renonce jamais. C'est épuisant d'ailleurs, hein. Même pas sur l'organisation des vacances entre les trois zones de ses quatre enfants. Elle ferait même changer les dates du calendrier national que je serais pas étonnée. Je sais pas comment dire, mais elle a la foi. Elle a une très grande confiance dans la réussite des choses qu'elle entreprend ou que ses proches entreprennent d'ailleurs, et qu'elle y met toute son énergie et tous ses moyens. Elle a une capacité à transformer les épreuves en défis qui est totalement sidérante. Elle est très très positive, très généreuse et il me semble que ça va bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas étonnés, nous, ses enfants, qu'elle poursuive avec une activité de coaching, quoi, qui est vraiment la suite logique de sa vie pro. Voilà, on savait bien qu'elle ne s'arrêterait pas à la retraite, quoi.
C'est vrai, on sent une grande admiration. Est-ce que vous avez justement une anecdote dans la famille à nous raconter?
Il y en a plein. Maman a toujours plein de fer au feu. Elle est capable de faire des tas de choses à la fois. Elle aime des tas de choses. Elle aime la peinture, la lecture, l'opéra, des choses aussi diverses que la nature. Par exemple, elle voulait être, quand elle était petite, elle voulait être fermière. Et il y a 20 ans, à Paris, dans le 16e, elle a quand même réussi à installer des poules au milieu de ses rosiers, hein, à faire pousser un camélia dans la cour et à poser des ruches sur le toit de chez elle. voilà, c'est pour dire un peu le voilà, quand elle a une idée en tête, elle va au bout, quoi.
Alors justement, Marianne, vous écoute votre maman. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Je lui dis souvent beaucoup de choses, hein, donc c'est peut-être pas vraiment un message, mais peut-être plutôt juste une réflexion que je me fais. Maman, tous tes proches, savent pertinemment que ta famille, c'est ta ressource et ton moteur à la fois. Et du coup, je me demande quand même souvent à quoi tu nous as biberonné pour être aussi entreprenant. Voilà.
C'est vrai que c'est... En fait, vos amis, tous ceux qui vous apprécient, et moi j'ai la chance de faire partie de ceux qui vous apprécient beaucoup, on se demande effectivement... vous avez vu, c'est la même question que je vous ai posée. C'est vous avez biberonné tout le monde finalement avec une énergie absolument incroyable. Mais il y a vraiment c'est le même dénominateur commun. Dans l'intimité, dans le social, dans le familial et dans le professionnel, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas... Il y a une grande porosité dans vos vies en général. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de telle nature dans votre vie professionnelle, vous êtes exactement comme vous êtes partout où vous vous trouvez.
C'est vrai que je ne suis pas cloisonnée.
Du tout. Du tout. Vous êtes d'une sincérité déconcertante.
En tout cas, là encore...
C'est magnifique ce que dit votre fille. Elle dit, indépendamment que ce soit ma maman, c'est quelqu'un de...
Ouais, on sent de l'admiration, vraiment. Ouais. Et puis, des valeurs qui ont été transmises également, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Bon, mais écoutez, c'est mon jour de chance, voilà. Là. Hein.
Marianne, l'émission se termine.
Moi, je ne savais pas qu'on avait mis... Vous avez vraiment mis des poules dans le 16e arrondissement.
Bien sûr.
C'est incroyable, il y avait des ruches sur le toit.
Ah oui. Alors, les ruches, ils sont toujours.
Ouais.
Les poules, ils ne sont plus parce qu'avec le Covid, moi, je ne pouvais plus m'en occuper parce que je n'étais pas à Paris.
Il y avait vraiment des poules et la copropriété, ils n'ont rien
pondé. Ah, mais tous les enfants du hameau, là, venaient voir les poules.
Oh, génial.
Extraordinaire.
Il n'y avait pas de coq. Hein. Il y a une grande histoire d'amour entre une poule et un coq un été où j'étais pas là. Et après, on a ramené la poule au coq parce qu'elle était trop triste d'être sans son coq.
Les poules, ça n'aime pas être toutes seules.
Non, elles étaient deux, mais elles préféraient le coq.
D'accord. Bon.
Oui, c'est sûr. Ou les peaux. D'ailleurs, j'ai ramené la poule aux peaux.
Mais... Bon. Marianne, merci infiniment. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes une femme exceptionnelle. Merci beaucoup d'être venue dans le MAC de l'IMO. Sylvain.
Et oui, moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est un moment extrêmement singulier, un moment extrêmement émouvant. En même temps, je ne suis pas très objectif, puisque je vous aimais déjà avant de vous rencontrer.
Voilà.
Et donc, nous vous aimons tous, Marianne, dans le métier. Parce que vous nous inspirez, et je pense que ce qui nous fait du bien dans ce que vous faites, voilà, il faudrait faire rembourser Marianne par la sécurité sociale, c'est la formidable humanité que vous injectez en permanence, mais je pense que ça dépend pas de vous, vous n'êtes pas consciente de cela, et elle irradie complètement, nous on a juste envie de vous dire jusqu'à 120 ans, et ne changez rien, voilà.
Merci Sylvain, merci Bérénice, c'était un plaisir pour moi aussi.
À très bientôt sur Radio Imo.
Le MAC de l'Imo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.